Merci d'écouter RFI. Dernière partie de RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. Il est 13h en temps universel et 14h à Paris. Dernière demi-heure donc avec Haïti à la une. Un nouveau massacre sur instruction d'un chef de gang de la capitale. Les Nations Unies parlent de 184 morts, on y revient dans quelques minutes. Nous ferons aussi le bilan d'un an de présidence Milei en Argentine avec notre correspondant à Buenos Aires et avec notre invité. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, on parlera avec vous de sécurité routière en Guadeloupe.
Eh oui, 50 morts sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année, soit 11 de plus qu'en 2023. Un bilan qui afflige le président de l'association Pédagogie Routière. Nous l'entendrons tout à l'heure.
À tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Un peu partout dans le monde, la chute de Bachar el-Assad est célébrée par les Syriens.
Oui, ils sont très nombreux à laisser éclater leur joie à l'annonce de la fin du régime Honi. Le clan Assad aura tenu le pays d'une main de fer pendant des décennies. Et depuis ce week-end, on assiste à des scènes de liesse en Syrie, bien sûr, mais aussi dans de nombreuses villes d'Europe, des villes d'Allemagne ou villes à plus importante diaspora syrienne de l'Union européenne, ou bien encore Athènes, la capitale grecque. Hier, des centaines de personnes ont investi la place Syntagma. Parmi elles, ce Syrien de 31 ans, originaire de Damas. Il est au micro de Joël Brunner.
Je suis vraiment très heureux. Ce qui n'était qu'un rêve vient de se concrétiser devant mes yeux. Nous sommes ravis et très excités pour notre pays, pour nos proches restés sur place et aussi pour nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai eu ma famille au téléphone. Ils sont en liesse. Ma mère est libre pour la toute première fois de sa vie. Au téléphone, elle m'a dit « Mon fils, je veux te revoir, je veux que tu rentres à la maison. » Cela fait 13 ans que j'ai quitté mon pays et que j'attends ce moment. Et là, d'un coup, je suis allé me coucher un soir et le lendemain matin, quand je me réveille, tout a changé. Ici, en Grèce, j'ai travaillé 5 ans dans des cuisines de restaurants, puis ensuite dans le bâtiment. Je peins, je fais des réparations, ce genre de choses. Bien sûr que j'ai envie de retrouver mon pays. Peut-être que je pourrais aider à reconstruire les immeubles qui ont été endommagés pendant la guerre civile. Maintenant que j'ai acquis certaines compétences ici en Grèce, si Dieu le veut, ce retour au pays sera un succès.
Will be, inshallah, successful for our country.
Un jeune Syrien participant à un rassemblement hier à Athènes. Il n'est bien sûr pas le seul. Carlota Morteo, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
La guerre civile et la dictature ont provoqué la plus grande crise migratoire des dernières décennies sur une population de 24 millions d'habitants en 2011. La moitié a fini sur les routes et des millions de Syriens, Carlota, ont été forcés au déplacement.
Oui, alors la situation a été extrêmement mouvante en 10 ans de conflit, mais aujourd'hui, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, on compte 7 200 000 déplacés internes et 6 millions de réfugiés à l'extérieur des frontières de la Syrie. 73% de ces exilés à l'étranger vivent dans des pays voisins. La Turquie en accueille et de loin le plus grand nombre, 3 700 000. Vient ensuite le Liban où 840 000 Syriens avaient trouvé refuge avant que les frappes israéliennes provoquent un exode en sens inverse il y a quelques semaines. Enfin, la Jordanie héberge environ 670 000 Syriens. On trouve aussi des réfugiés en Irak, en Égypte et en Europe, où les Syriens sont le premier contingent de demandeurs d'asile. 621 000 vivent en Allemagne. Vient ensuite la Suède avec 115 000 réfugiés. Partout ailleurs, on trouve des Syriens par plus petites grappes. Ils ne sont par exemple que 37 000 en France. A noter que plus de 93 000 Syriens ont choisi le Soudan, un pays où ils pouvaient travailler sans visa jusqu'en 2020 et où la guerre les rattrape aujourd'hui. Partout, ces Syriens exilés disent à plus de 60% qu'ils veulent rentrer chez eux.
Merci Carlota Morteo. Ce matin, des Syriens en liesse se sont rassemblés sur la place des Omeyyades à Damas pour célébrer la chute du régime Honi. Bachar el-Assad a fui la capitale. Le Kremlin refusait de confirmer qu'il était à Moscou, comme l'affirmaient hier des agences russes. Le Kremlin, qui reconnaît avoir été surpris par l'offensive éclair des rebelles, a par ailleurs jugé nécessaire de discuter avec les futures autorités sur un éventuel maintien des bases militaires russes en Syrie. De son côté, l'ONU a demandé que toutes les mesures soient prises pour protéger les minorités syriennes. Depuis quelques jours, les raids israéliens et américains se sont multipliés à travers le pays. Israël, comme en réponse à l'ONU, assure que son avancée dans la zone tampon du Golan est limitée et temporaire. L'armée israélienne a en tout cas pris le contrôle de secteurs stratégiques sur ce plateau, un territoire occupé en 1967 et annexé en 1981.
Un bilan accablant sur l'état de nos sols.
C'est ce qui apparaît dans un rapport publié par le comité scientifique de la Convention de l'ONU contre la désertification. On y apprend que plus des trois quarts des terres de la planète ont connu des conditions plus sèches lors des trois dernières décennies. Sur la même période, les terres arides ont gagné quelque 4,3 millions de kilomètres carrés. Elles couvrent désormais plus de 40% de toutes les terres de la planète, avec forcément des conséquences pour l'agriculture, les écosystèmes et les populations. Igor Strauss est à Riyad où se tient la COP 16 désertification.
Pour Ibrahim Thio, le secrétaire exécutif de la Convention de l'ONU, le constat est implacable. Pour la première fois, la crise de l'aridité a été documentée avec une clarté scientifique, révélant une menace existentielle, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, 2,3 milliards de personnes, soit plus de 25% de la population mondiale, vivent dans des zones arides. Et comme la planète continue de se réchauffer, à la fin du siècle, 5 milliards de personnes pourraient vivre dans de telles zones, avec des sols épuisés, des ressources en eau de plus en plus rares et la diminution ou l'effondrement d'écosystèmes autrefois florissants. Car contrairement aux sécheresses, qui sont des périodes temporaires de faibles précipitations, l'aridité représente une transformation permanente et implacable de l'environnement. La quasi-totalité de l'Europe, l'ouest des États-Unis, le Brésil, certaines parties de l'Asie et l'Afrique centrale sont particulièrement touchées par la tendance à l'assèchement. Ces données scientifiques doivent donc permettre de hisser ce sujet négligé en haut de l'agenda politique. Encore faut-il se rappeler, tacle l'un des auteurs du rapport, que la nourriture vient du sol et non des supermarchés. Igor Strauss, Riyad, RFI.
En bref, maintenant, regain de tension à Taïwan. Ce matin, les forces armées taïwanaises ont été placées en état d'alerte élevé. Décision prise après que la Chine a imposé de vastes restrictions aériennes au large d'une partie des côtes de Taïwan. En Corée du Sud, le président placé sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire, lâché par les siens. Il fait l'objet d'une enquête pour rébellion après sa proclamation éphémère de la loi martiale. C'était la semaine dernière.
Du football maintenant. Et Kylian Mbappé qui sort de son silence.
Oui, très critiqué pour ses performances en club et en sélection. L'attaquant vedette du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France s'est livré à Canal+. Dans cette interview, il se livre sur de nombreux sujets sportifs et extra-sportifs afin de tenter de redorer une image qui a perdu de son éclat récemment. Cédric De Oliveira.
Ces derniers temps, sa parole est rare, alors Kylian Mbappé a voulu clarifier certaines choses. Près de deux mois après avoir été mis en cause par la presse suédoise dans une affaire de viol et agression sexuelle à Stockholm, l'attaquant français a rappelé que la justice ne l'avait pour l'instant pas sollicité.
J'ai rien reçu, pas de convocation, rien. J'ai la même chose que tout le monde, quoi. Dans la presse, il y en a qui en ont parlé. Le gouvernement suédois a rien dit. Je suis pas concerné. Il faut laisser couler, laisser la justice faire son travail. Et quand ça va se terminer, chacun réglera ses comptes.
Très détendu, en tout cas en apparence, Mbappé a répondu aux critiques alors qu'il traverse la période la plus délicate de sa carrière à bientôt 26 ans. Il le sait, tous ses faits et gestes sont épiés, décortiqués. Son absence lors des deux derniers rassemblements de l'équipe de France n'est pas passée inaperçue, mais il a tenu à rassurer les fans des Bleus.
Pour moi, mon amour de l'équipe de France, il n'a pas bougé. Et j'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. Dernièrement, j'ai même donné mon nez. Je te donne quoi? Non, j'ai toujours tout donné. Ouais, je me concentre sur le Real Madrid, c'est très important, c'est un rêve. J'ai jamais abandonné l'équipe de France.
Au cours de l'interview, Mbappé a constamment voulu casser cette image de joueur individualiste qui lui colle à la peau, précisant notamment ne jamais avoir revendiqué le brassard de capitaine de l'équipe de France. Après cette opération de communication, il lui faudra maintenant redevenir performant sur le terrain pour lever les doutes qui pèsent sur lui.
Et prochain rendez-vous sur le terrain pour Kylian Mbappé, c'est dès demain mardi, sous les couleurs du Real Madrid en Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Anne Cantner, c'est à vous.
Merci Gilles Moreau. Prochain journal à 14h, temps universel sur RFI. Et pour l'instant, suite et fin de RFI Midi sur le continent américain et d'abord en Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Haïti est un nouveau massacre. C'est le deuxième en deux mois après celui de Ponsondé qui avait choqué tout le pays. Ce nouveau massacre s'est produit dans le quartier de Cité-Soleil, dans la périphérie de Port-au-Prince, la capitale qui paie un lourd tribut depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. On va en parler tout de suite avec vous, Vincent Souriau, de ce massacre, de cette nouvelle tuerie commise dans la capitale haïtienne. le commissariat, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU parle d'au moins 184 morts.
Effectivement, bilan toujours incertain, on ne connaît pas le nombre exact de victimes et il sera d'ailleurs très difficile à établir. Mais Cité Soleil a connu pendant le week-end qui vient de s'écouler des scènes d'une violence inouïe. C'est une commune défavorisée, très souvent décrite comme le plus grand bidonville d'Haïti, peuplée d'environ 300 000 habitants, zone sous le contrôle de la coalition de gangs Vivre Ensemble. Et c'est le chef autoproclamé de l'un de ses groupes armés, Monel Félix, qui a ordonné ce massacre. D'après les sources du Comité pour la paix et le développement, une ONG haïtienne qui dispose de plusieurs relais sur place, le fils de Monel Félix est tombé malade, ce qu'il n'a pas supporté. Et il en est venu à accuser les personnes âgées de Cité Soleil et les pratiquants du culte vaudou d'avoir jeté un sort à son enfant, ce qui a provoqué ce carnage. D'après cette ONG, le Comité pour la paix et le développement, Monel Félix et ses hommes auraient encore sous leur coupe plusieurs dizaines de personnes qui seraient susceptibles d'être exécutées dans les heures ou les jours qui viennent.
Vincent Souriau, on reparlera de ce massacre, de cette nouvelle tuerie en Haïti dans nos journaux tout au long de la journée. Un mot encore de l'actualité du pays. On apprend qu'American Airlines ne reprendra pas son service quotidien entre Miami et Port-au-Prince au début du mois de février prochain. C'est pourtant ce qui avait été annoncé. Mais le Miami Herald a parlé à un porte-parole de la compagnie aérienne et selon lui, une reprise des vols entre les deux villes ne pourra être envisagée que pour la fin de l'année 2025.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On va revenir maintenant sur la situation en Syrie. La chute de Bachar al-Assad après plus de 50 années de pouvoir dynastique. D'abord son père, puis lui. Bachar al-Assad renversé par une offensive éclair menée par une coalition de groupes armés sous la houlette des rebelles islamistes de HTS. Le secrétaire américain à la Défense s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure.
Je pense que l'ensemble de la communauté internationale a été surprise de voir que les forces d'opposition ont avancé aussi rapidement qu'elles l'ont fait. Tout le monde s'attendait à une résistance beaucoup plus forte de la part des forces d'Assad. La rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées a donc surpris, je pense, la plupart des membres de la communauté internationale.
Alors, le secrétaire américain à la Défense, avant lui, Christophe Pagel, le président américain avait pris la parole hier soir.
Oui, hier, Joe Biden a parlé d'une opportunité historique pour les Syriens de construire un meilleur avenir. Et il a souligné le fait que Washington échangerait avec tous les groupes syriens pour mettre en place une transition avec une nouvelle constitution et un nouveau gouvernement. Mais il a aussi parlé de risques et d'incertitudes. Son conseiller Jake Sullivan l'avait dit avant lui, la priorité pour les États-Unis, ce sera de prévenir toute résurgence du groupe État islamique qui a occupé de larges pans du territoire syrien entre 2014 et 2018. C'est la raison pour laquelle les États-Unis comptent aujourd'hui près de 900 soldats stationnés dans le pays dans le cadre de la coalition anti-djihadiste établie en 2014. Les Américains affirment d'ailleurs avoir mené hier des dizaines de frappes dans le centre de la Syrie contre des cibles de l'EI.
Les Américains qui aident aussi leur allié israélien à tirer profit de la chute de Bachar al-Assad.
Ces dernières 24 heures, Israël a lui aussi mené des frappes en coordination avec les États-Unis pour entre autres s'emparer de la zone tampon située en territoire syrien à la lisière de la partie du plateau du Golan occupée par Israël. Il s'agit aussi de détruire les armes stratégiques entreposées en Syrie, armes chimiques entre autres. En 2019, Donald Trump avait officiellement reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Donald Trump, justement, qui entrera bientôt en fonction, et lui aussi s'est exprimé.
Oui, d'abord samedi, avant que les rebelles ne prennent Damas, pour dire sur son réseau Truth Social, « Laissons la situation se développer, ne nous en mêlons pas, ce n'est pas notre combat ». Dimanche, après la fuite de Bachar al-Assad, il a de nouveau évoqué la Syrie, mais surtout pour parler de la Russie et de l'Ukraine, qui semblent davantage l'intéresser. Moscou n'a pas protégé le dictateur syrien à cause de la guerre en Ukraine, a estimé le président américain élu, qui, dans ce conflit, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations.
Christophe Pagel, et nous reviendrons sur la situation en Syrie dans le prochain journal, dans trois quarts d'heure.
RFI, la radio del mundo.
On va prendre maintenant la direction de l'Argentine, qui vient de connaître une année de pouvoir Javier Milei, un an de mesures choc, à l'image de ce qu'avait promis le dirigeant ultra-populiste et ultra-libéral. Javier Milei y est allé à la tronçonneuse avec un mot-clé, l'austérité. Et ça ne fonctionne pas si mal. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Argentine, en direct de Buenos Aires. Aujourd'hui, l'économie du pays est stabilisée.
Oui, quand on regarde les grandes variables macroéconomiques du pays, eh bien, force est de constater que la thérapie de choc de Javier Milei a porté ses fruits. À son arrivée au pouvoir, le président ultralibéral a immédiatement stoppé l'émission monétaire et opéré des coupes drastiques dans les dépenses de l'État, ce qui lui a permis de remettre de l'ordre dans les comptes publics et même de dégager un excédent budgétaire dès le mois de janvier. Le peso argentin, qui était en proie depuis des années à une dépréciation chronique, s'est stabilisé. Et surtout, et c'est là que Javier Milei était le plus attendu, l'inflation a diminué. Après une dévaluation de plus de 50% de la monnaie nationale qui a fait bondir les prix de 25% au mois de décembre, l'augmentation du coût de la vie a commencé à ralentir jusqu'à atteindre 2,7% au mois d'octobre dernier. Des résultats concrets que le président argentin a obtenus, il faut le rappeler, sans avoir de majorité au Parlement. Le Fonds monétaire international, auquel l'Argentine doit 44 milliards de dollars, ne tarit pas d'éloges à l'égard du plan économique du gouvernement. Et les résultats rapides de ce plan ont surpris beaucoup d'observateurs, reconnaît Guido Zac. Il est économiste en chef de la fondation Fundar.
La stratégie du gouvernement sur l'inflation a été très audacieuse. Elle a été brutale également car elle n'a pas pris en compte les coûts qu'elle impliquait. Mais force est de constater qu'alors que personne ne s'y attendait, elle a indéniablement été efficace jusqu'ici.
Et quelles ont été les conséquences, les coûts de cette stratégie pour faire baisser l'inflation ?
Alors c'est là qu'il convient de nuancer le bilan économique de Javier Milei. Certes, l'inflation a baissé, mais le pays est entré en récession économique. Le PIB devrait se contracter de 3,5% cette année. 180 000 emplois ont été détruits. Les dérégulations ont fait exploser les prix du gaz, de l'électricité, des transports en commun. Et plus de 4 millions d'Argentins sont tombés sous le seuil de pauvreté cette année, soit 10% de la population. Alors le président avait prévenu que les premiers mois seraient difficiles, mais il avait prédit une récupération rapide de l'économie qui tarde à se faire sentir. Il avait aussi prévenu qu'il allait mettre en place un plan d'austérité, mais là encore, il avait promis que c'était la caste politique qui allait en subir les conséquences et pas la population. Mais selon l'économiste Juan Manuel Telechea, ceux qui payent le plus lourd tribut depuis un an correspondent difficilement à la définition de caste.
Quand on regarde les postes de dépenses publiques qui ont le plus diminué, le premier, ce sont les retraites. Donc là, on ne parle pas de la caste. En deuxième position, il y a les travaux d'infrastructures publiques que le gouvernement a totalement mis à l'arrêt avec de fortes conséquences sur l'emploi dans le secteur de la construction. Et en troisième position, il y a les transferts de ressources aux provinces que le gouvernement a drastiquement réduits. C'est principalement là que les économies ont été faites. Et j'ajouterai aussi sur les salaires des fonctionnaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec la caste non plus.
Et alors, dans ce contexte, Théo, qu'en est-il de l'opinion publique ?
Eh bien, si on se fie aux instituts de sondage, un an après avoir été élu avec 55% des voix au second tour de l'élection présidentielle, Javier Milei conserve le soutien d'une grande partie de ses électeurs. Malgré la crise et les conséquences de ce que le président ultralibéral décrit comme le plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité, entre 45 et 50% des Argentins continuent de le soutenir selon les enquêtes d'opinion. Cependant, la pauvreté et les inégalités sont petit à petit en train de remplacer l'inflation en tête des principales préoccupations de la population et les Argentins retourneront aux urnes fin 2025 pour des élections législatives. Le score de la Libertad Avanza, le parti présidentiel, devrait dépendre en grande partie de l'ampleur qu'aura ou non la reprise économique promise par le président argentin.
Théo Conscience en direct de Buenos Aires. On va continuer à parler de cette première année de pouvoir de Javier Milei avec notre invité David Copello. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur post-doctorant au laboratoire Agora à l'Université de Cergy-Paris et chercheur associé au CREDA, le Centre de recherche et de documentation des Amériques. On va aborder avec vous d'autres aspects de l'économie, mais peut-être on peut en dire encore un mot, notamment à propos de ce que nous disait notre correspondant à l'instant. Globalement, ça va mieux, mais dans les faits, à qui bénéficie cette stabilisation et qui en subit au contraire les pendants négatifs ?
Oui, alors je dirais que globalement ça va mieux, il est vrai uniquement si on se focalise sur un certain nombre d'indicateurs, dans la mesure où la baisse de l'inflation qui est réelle, elle est couplée, elle est fondamentalement associée à la baisse de l'activité économique et à l'augmentation de la pauvreté. Si les prix baissent, c'est parce que les gens ne peuvent plus acheter. Donc à qui ça bénéficie ? La baisse de l'inflation, à tout le monde. À qui ça ne bénéficie pas, la baisse de l'activité économique, la récession et l'appauvrissement ? Je dirais que notamment, ça se focalise sur un certain nombre de secteurs comme les retraités, comme les agents de la fonction publique, qui étaient par ailleurs les secteurs, des secteurs dans lesquels Milei ne faisait pas tant que ça le plein de voix au moment des élections.
Et donc, des secteurs qui se sont aussi mobilisés, notamment la fonction publique. Il y a eu une série de manifestations, de grèves au cours des derniers mois. Quelle est l'influence des mouvements sociaux aujourd'hui en Argentine ?
Alors je dirais qu'il y a des mouvements sociaux qui ont été très forts au cours de l'année, mais qui ont été assez sporadiques, liés à des mesures sectorielles. Donc la question des retraites, la question du financement des universités aussi, hein, qui n'a pas du tout été renouvelé et actualisé en fonction de l'inflation. Une série de mouvements comme ça aussi sur les questions de mémoire, en lien avec la mémoire de la dictature, qui est assez fortement attaquée par le gouvernement, mais qui n'ont pas donné lieu à un mouvement qui s'étend dans le temps et qui donne des grandes grèves générales et des logiques de blocage du pays. Ce qui est aussi beaucoup lié, je crois, tout simplement à la difficulté des conditions sociales que traverse la plupart des Argentins, qui ne sont tout simplement pas en mesure, qui n'ont pas les moyens de se mobiliser quelque part, puisque toute l'énergie est mise aussi dans la survie.
Et pourtant, tout ça, ça ne semble pas affecter la cote de popularité de Javier Milei, c'est ce que nous disait notre correspondant tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que son parti pourrait obtenir une majorité aux législatives l'année prochaine ?
Alors, une majorité aux législatives, c'est compliqué en tant que tel parce que le système électoral argentin fait qu'il y a seulement une moitié des députés qui sont renouvelés tous les deux ans. Donc, ce qui est sûr, c'est que le nombre de députés miléistes... Oui, alors une majorité de coalition, ça n'est pas impossible. D'autant plus que le Milei ne remet pas en jeu de poste à ces élections. C'est la première fois que son parti se présentait il y a un an, donc il a obtenu 37 députés, et il ne peut qu'augmenter son nombre de députés. Donc effectivement, après, les pronostics électoraux sont difficiles à établir, parce qu'ils vont en large mesure dépendre aussi de s'il y a reprise ou pas de l'économie. Là, on est toujours en récession l'an prochain. Mais il est sûr d'une chose, c'est que la popularité de Milei est relativement stable, c'est ce qu'on voit dans la plupart des enquêtes, même s'il y a un tout petit peu de va-et-vient, et que c'est aussi en grande partie lié au fait que les secteurs les plus affectés par les politiques de Milei sont aussi des secteurs qui votaient moins pour Milei. Donc finalement, la division de l'opinion, elle reste similaire à ce qu'il y avait l'année dernière.
Et ça le freine beaucoup, le fait de ne pas avoir de majorité aujourd'hui, dans la mise en œuvre de certaines mesures ?
Alors c'est assez paradoxal, hein, l'effet de cette minorité parlementaire. En fait, le fait est que l'Argentine a un système présidentialiste dans lequel le président a beaucoup de pouvoir. Donc malgré tout, il arrive à s'en sortir. Alors il est quand même très ralenti dans ses réformes. Il a dû revoir à la baisse un certain nombre de choses. Hein. Par exemple, en décembre dernier, il envisageait d'interdire les regroupements de plus de 4 personnes, enfin de les soumettre à une autorisation par la préfecture, chose qui n'a pas été acceptée par le Parlement. Globalement, dans sa politique économique, il a été assez accompagné par les députés, hein, en dépit du fait qu'ils ne sont pas tous partis de sa coalition. Donc il est ralenti, mais il n'est pas stoppé.
Donc il peut quand même agir. On va dire un mot peut-être de ses ambitions internationales, puisque Javier Milei s'est réjoui depuis des semaines du retour au pouvoir de Donald Trump, qui prendra ses fonctions, lui, en janvier. Mais est-ce que leurs affinités, leur proximité idéologique va vraiment se traduire dans les faits, dans les relations entre les deux pays ? Est-ce qu'il peut, par exemple, espérer jouer de cette proximité pour passer entre les mailles du protectionnisme, par exemple, qui est promis par Donald Trump ?
Alors, une chose est sûre, c'est que Milei espère pouvoir en bénéficier. Qu'il en bénéficie, c'est autre chose. Et ça, j'avoue ne pas être en mesure de deviner quelles sont les intentions de Trump et sa capacité aussi à imposer des exceptions sur certains pays dans les réformes qui vont être mises en place. En revanche, une chose sur laquelle vraiment Trump est attendu de la part de l'Argentine, hein, une chose qu'on espère beaucoup de lui dans le gouvernement de Milei, c'est qu'il aide l'Argentine à renégocier les conditions du prêt auprès du FMI et les conditions du remboursement de ce prêt qui pèsent assez lourdement sur la capacité du pays à s'endetter à l'étranger et à faire redémarrer son économie.
Donc c'est plutôt autour de la question du FMI. Une première fois. Et puis, tous les deux partagent aussi une ambition, un objectif, disons, qui est de limiter l'influence chinoise dans la région.
Oui, tout à fait. Alors, il y a la question de la Chine, il y a la question aussi de l'agenda idéologique plus global, hein, d'une forme d'ultra-conservatisme que partagent Trump et Milei. Et de point de vue de cet ultra-conservatisme, alors avec aussi une dimension un peu paradoxale parfois, la Chine apparaît comme le grand ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par les deux leaders avec un ensemble d'obsessions, si vous voulez, de ce qu'ils appellent le marxisme culturel, hein, qui est aussi dans leur viseur. Et ça, c'est quelque chose qui va imprimer la marque des relations internationales en Amérique dans les prochaines années, c'est sûr.
Et en ça, il se distingue d'un certain nombre de pays voisins. D'ailleurs, sur plusieurs points, il prend des positions qui tranchent avec celles de l'Amérique latine en général. Je pense par exemple à ses positions concernant le conflit au Proche-Orient. C'est rare qu'un dirigeant sud-américain s'affiche ouvertement pro-israélien comme le fait Javier Milei. Dans quelle mesure est-ce que ça a des conséquences sur les relations avec les autres pays de la région ?
Je dirais que les relations qu'entretient Milei avec Israël sont particulièrement détonnantes, hein, c'est sûr. C'est un des seuls pays à avoir affirmé qu'il n'appliquerait pas le mandat d'arrêt qui vise Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Donc il y a 7 ou 8 pays, je crois, dans le monde, hein, qui ont affirmé ça de manière aussi nette. Je ne dirais pas que ça pèse directement sur les relations avec les autres pays de l'Amérique latine, mais les relations sont extrêmement tendues par ailleurs. Hein, les relations de Milei avec le Brésil, avec la Colombie, avec le Mexique sont extrêmement compliquées depuis l'année dernière, également avec le Venezuela, évidemment. C'est quelque chose qui est global chez Milei et qui est plutôt lié à son ultralibéralisme, je dirais, et sa défense acharnée d'une forme de libertarianisme contre le socialisme ou le communisme supposé de tous ses adversaires qui sont... Voilà, une définition assez large de ce que c'est que le communisme pour Milei.
Et qu'il ne le pénalise pas ?
Alors, au niveau interne, je ne pense pas. Enfin, ça fait partie de son logiciel de fonctionnement. Ça fait partie de ce qui a fait élire aussi ce candidat, hein, de se démarquer d'un certain nombre de leaders qui sont, en quelque part, des leaders traditionnels. On pense à Lula, évidemment, qui est installé dans le paysage régional depuis longtemps. Bon, Milei se présente comme l'outsider et aussi de ce point de vue-là. Maintenant, dans les relations avec les autres pays, ça peut être un problème. On a vu sur les derniers mois que Milei avait séché les réunions du Mercosur, ce qui peut, dans une certaine mesure, entraver les bonnes relations et le dynamisme des relations économiques avec les voisins.
Merci beaucoup, David Coppello, d'avoir été en ligne avec nous, chercheur post-doctorant au laboratoire Agora à l'Université de Cergy, Paris, et chercheur associé au CREDA. Vous évoquiez le Venezuela. Un tout petit mot de ce pays pour vous dire que l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia ne veut pas prendre la tête d'un gouvernement en exil, lui qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de juillet dernier et qui vit aujourd'hui en Espagne, assure dans la presse espagnole qu'il se rendra dans son pays le 10 janvier prochain pour, dit-il, prendre les fonctions de président.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler de sécurité routière. 6 morts en 2 jours sur les routes en Guadeloupe, 50 depuis le début de l'année.
Soit 11 de plus qu'en 2023, un triste bilan qui désole évidemment le président de l'association Pédagogie Routière. Pour André Montbrun, c'est l'apprentissage de base qui fait défaut, il l'a dit au micro de Colette Borda.
Le comportement, il existe depuis l'apprentissage. Un parent qui inscrit son enfant à l'auto-école va se dire que c'est trop cher. Dépêche-toi pour pouvoir finir d'apprendre et d'avoir ton permis. Dès le départ, on n'a pas les bonnes pratiques et les bons mots, les bonnes intentions. Aujourd'hui, par exemple, un élève qui va arriver à l'auto-école va peut-être rater son examen la première fois. Ce sera de la faute de l'enseignant de la conduite. Là aussi, il y a un problème. Personne ne se remet en question. Aujourd'hui, effectivement, les auto-écoles de la Guadeloupe sont en train de s'équiper. Mais aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que les élèves aujourd'hui sont toujours pressés. Les élèves aujourd'hui passent l'examen du code. Quelquefois, ils achètent le code. Ils passent, ils ont raté, ils s'inscrivent quelques heures après, etc. Il arrive souvent qu'un élève arrive en situation de conduite et se retrouve dans les routes avec un enseignant et l'enseignant se rend compte que l'élève ne reconnaît pas les panneaux. Pour beaucoup d'élèves, il n'y a pas une bonne assimilation du code de la route.
Direction la Martinique avec un tout autre sujet, la mise au point d'un nouveau traitement pour lutter contre les morsures du trigonocéphale fer de lance, un serpent venimeux endémique de la Martinique. Jonathan Florentin est toxicologue au centre hospitalier universitaire de la Martinique, bien sûr. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
On voit dans nos travaux que les patients qui arrivent précocement ont moins de complications et ont un meilleur taux de récupération. Donc dans les 6 heures, vraiment, on voit qu'il n'y a plus aucune séquelle. Il faut quand même avancer dans l'efficacité des traitements. Il y a d'autres champs qu'on doit explorer, notamment ce qu'on appelle les traitements adjuvants, les plantes médicinales, les connaissances traditionnelles qu'on veut essayer d'inclure dans nos traitements. Il y a énormément de débouchés et de travaux. On a une équipe de recherche qui se peaufine et qui va permettre de répondre à plusieurs questions sur ces envenimations. Maintenant, en général, les sérums antivenimeux couvrent plusieurs espèces de serpents et sont utilisés sur des zones bien plus grandes. Donc c'est notre projet d'inclure l'antivenin de notre serpent dans la formulation d'un nouvel antivenin pour toute la Caraïbe et la Guyane française.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée ce lundi par Vincent Biteau. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Et cette question, le silence est-il efficace pour se faire entendre? Allez, je teste tout de suite. Bonne journée à tous.
RFI Talent présente Gabriel Halima. Découvrez Semé Chamarevou, le premier single de l'artiste brésilienne avec Vanille en invité. Disponible sur toutes les plateformes.